Encore une fois de plus, bonjour à tous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prions d'abord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole que nous voulons écouter, méditer ce matin, Seigneur. Cette parole qui est la vie, cette parole qui est la lumière, qui puisse nous éclairer, Seigneur. Et je m'abandonne entre tes saintes mains, moi qui suis rien devant ton peuple pour lequel Christ a payé le grand prix sur la croix. Que je ne puisse être qu'un canal, Seigneur, au travers duquel toi tu vas parler. Au nom de Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je pense que nous suivons l'actualité par des journaux, à la radio. Et il y a une chose que nous constatons, que sur cette terre, partout dans le monde, quand une personne importante décède, quand une personne importante rend l'âme, donc cette personne meurt, des centaines de personnes viennent lui rendre un dernier hommage en signe de reconnaissance. Et des fois, il y a même des critères à respecter dans le but de limiter le nombre de gens, le nombre de personnes qui doivent assister à l'enterrement. Je pense que ce n'est pas étrange à chacun d'entre nous. Nous connaissons comment ça se passe. Mais il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour les pécheurs sur la croix. Et la Bible dit que la foule et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée regardaient de loin ce qui s'est passé à Golgotha. Non seulement ils regardaient de loin, et qu'est-ce qu'ils ont fait après? La Bible dit, et partirent, laissant le corps de Jésus-Christ sur la croix. La foule regardait de loin. Et ensuite, ils sont partis, laissant le corps de Jésus-Christ sur la croix. Tous avaient peur. Et lors de son ensevelissement, entre guillemets, son enterrement, l'enterrement de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas une queue de centaines de personnes pour lui rendre hommage. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Lui qui est le roi des rois, lui qui mérite tout honneur et toute gloire. Il n'y avait pas une queue énorme. Alors que dans ce monde, nous voyons la queue de gens qui rendent honneur à celui qui est décédé, apportant des fleurs, apportant ceci ou cela. Autre chose, bien aimé, quand Jean-Baptiste est mort, décapité par Hérode, nous connaissons l'histoire, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 14, le verset 12, que les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Les disciples de Jean sont venus prendre le corps de Jean-Baptiste pour l'ensevelir. Par contre, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, aucun disciple n'a eu le courage d'aller prendre son corps pour l'ensevelir, comme fut le disciple de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste sont partis prendre le corps de leur maître pour l'ensevelir. Mais ce n'était pas le cas pour les disciples de Jésus-Christ. Seul un homme a eu le courage, seul un homme était disposé à s'identifier au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul était prêt à honorer et à servir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet homme-là que nous voulons considérer ce matin. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 15, le verset 42 à 47. Évangile de Marc, chapitre 15, le verset 42 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 15, le verset 42 à 47. Le verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par les centeniers, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. C'est la parole du Seigneur. Cet homme que nous voulons considérer ce matin, son nom est Joseph d'Arimathée. Parce qu'il y a plusieurs Joseph dans la Bible. Joseph d'Arimathée. Mais le titre de notre message, c'est « Joseph déclare enfin sa foi ». Joseph d'Arimathée, bien sûr, déclare enfin sa foi. C'est le titre de notre message ce matin. Alors nous allons considérer aussi trois petits points. Le premier point, qui était Joseph d'Arimathée? Le deuxième point, Joseph, le disciple secret. Et le troisième point, la démonstration publique de sa foi, c'est-à-dire la démonstration publique de la foi de Joseph d'Arimathée. Alors, qui était Joseph d'Arimathée? En dehors du récit de l'enterrement ou d'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ, nulle part dans la Bible vous trouverez le nom de Joseph d'Arimathée. Nulle part. Que dans ce contexte, dans ce récit d'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, parle de lui comme celui qui a enseveli le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui était-il? Qui était-il? La Bible dit qu'il était originaire d'Arimathée, une ville des Juifs. Nous trouvons cela dans Luc, chapitre 23 et le verset 51. Il était originaire d'Arimathée, une ville des Juifs. Qui était-il? Il était aussi membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est cette cour de 70 membres qui était l'organe suprême, une cour suprême des Juifs. Il était membre de cette cour-là, de ce conseil du Sanhédrin. Ce conseil qui a fait crucifier Jésus-Christ. Joseph était membre dans ce conseil. Et étant membre de ce conseil, il n'avait pas approuvé la décision prise par cette cour concernant la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il fût membre de ce conseil, mais la décision qui a été prise, si nous, nous lisons très bien la Bible, vous verrez que cette décision qui a été prise pour faire mourir le Seigneur Jésus-Christ, lui n'était pas d'accord à cela. Il n'avait pas approuvé cela. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit encore concernant cet homme? La parole de Dieu dit qu'il était un homme bon et juste. Vous le trouverez dans Luc, chapitre 23, le verset 50. Luc, chapitre 23, le verset 50, pardon. Il était un homme bon et juste. Et plus loin encore, dans Marc, chapitre 15, verset 43, le passage que nous venons de lire, qu'est-ce que Marc dit au verset 43? Marc dit que arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. C'est-à-dire, ce n'était pas n'importe quel conseiller. Ce n'était pas n'importe quel conseiller. Parce que quand la Bible donne cette précision, c'est que c'est important. Il ne faut pas prendre cela à la légère. La Bible dit, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Et Marc ajoute autre chose. Marc dit, il attendait aussi le royaume de Dieu. Conseiller de distinction, mais qui attendait le royaume de Dieu? C'est cette précision que Marc nous donne et c'est très important. Il attendait le royaume de Dieu et cela nous rappelle quelqu'un d'autre dans la Bible qui attendait aussi quelque chose. Siméon, dans Luc chapitre 2, le verset 22 jusqu'à 25, Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Et Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Et si nous allons encore plus loin en lisant la parole de Dieu, l'évangile de Jean donne encore une autre précision très importante aussi concernant cet homme. Et cette précision, nous la trouvons dans Jean chapitre 19, le verset 38. Qu'est-ce que Jean dit dans le verset 19-38? Je vais lire pour vous. Jean dit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus-Christ, et il donne une précision, mais en secret, par crainte des Juifs. Il était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. Pourquoi en secret? Par crainte des Juifs. Donc c'était quelqu'un qui était influent et respecté de ce groupe d'hommes. Mais sa peur, sa crainte des autres l'avait poussé à ne pas prendre position pour Christ. Même si, certainement, son cœur lui disait le contraire. Mais il resta disciple de Jésus-Christ, mais en secret, comme dit l'évangile de Jean. Voilà ce que la Bible dit concernant cet homme remarquable. Alors le deuxième point, c'est Joseph d'Arimathée, le disciple secret. Parce que Jean dit, il fut disciple, mais en secret, par crainte des Juifs. Oui, selon Jean, Joseph d'Arimathée était un disciple secret de Jésus-Christ. Et la raison de sa peur est clairement mentionnée dans l'évangile de Jean, au verset 38 du chapitre 19. La raison de sa peur, de sa crainte est clairement mentionnée. La Bible dit « par crainte des Juifs ». Il avait peur des Juifs. Il avait peur des hommes et n'ont pas peur de Dieu. Il avait peur des Juifs. Il avait tellement peur des Juifs qu'il est resté pendant un certain temps un disciple secret. Comme on dit en français, ni vu, ni connu. C'est comme ça qu'il était. Il voulait que personne ne puisse le savoir, surtout dans ce conseil-là. Et en parlant des disciples secrets, nous pouvons aussi citer quelqu'un d'autre que nous connaissons, Nicodème. Nicodème, celui qui était allé voir Jésus-Christ la nuit. Nous connaissons l'histoire. Et tous les deux, Nicodème et Joseph d'Arimathée, étaient membres de ce fameux conseil Sanhédrin, cette fameuse cour. Ils étaient tous les deux membres. Et cette cour, ce conseil, si nous lisons très bien la parole de Dieu, nous fouillons très bien la parole de Dieu, nous voyons que c'est ce conseil, c'est cette cour qui a cherché de faux témoignages contre Jésus-Christ pour le faire mourir. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, le verset 59, ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Matthieu chapitre 26, le verset 59, la parole de Dieu dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. C'est ce conseil-là d'où faisaient partie Joseph d'Arimathée et Nicodème. Et c'est toujours le même conseil-là, ce fameux conseil. Les membres de ce conseil qui ont craché au visage de Christ et lui ont donné des coups de poing en disant, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? Matthieu le dit toujours au chapitre 26, au chapitre 26 et le verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? Ce sont eux qui ont humilié notre Seigneur Jésus-Christ, le membre de ce conseil-là, dont faisait partie Joseph d'Arimathée. Et ce n'est pas fini. C'est toujours ce même conseil, le Sanhédrin, qui a poussé la foule, qui a incité la foule de demander la libération de Barabbas. Vous connaissez l'histoire. Ce sont eux qui ont poussé la foule. Choisissez Barabbas. Quand Pilate a dit, vous voulez que je libère qui? Jésus-Christ ou Barabbas? Et ces membres de conseil Sanhédrin ont poussé la foule à dire, choisissez Barabbas, Barabbas. Toujours frères et sœurs, c'est pour avoir une idée de ce conseil. L'état d'esprit de ce conseil-là. Et ce conseil a réussi à manipuler Pilate pour crucifier Jésus-Christ. Oui, nous pouvons dire cela, que ce conseil a réussi à manipuler Pilate pour que Jésus-Christ puisse être crucifié. Donc c'est un conseil, nous pouvons dire que c'est dans ce conseil abominable, comme disent les jeunes, un conseil bizarre où nous trouvons des disciples secrets. C'est un peu étonnant, non? Un conseil bizarre, un conseil abominable. Et c'est là où nous trouvons qui? Nicodème et Joseph d'Arimathée. Oui, parce que tous les deux, ils faisaient partie de ce conseil. Mais plus tard, si nous lisons la parole de Dieu, plus tard nous verrons que tous les deux aussi, Joseph d'Arimathée et Nicodème, nous les retrouverons au tombeau de Jésus-Christ lors de son ensevelissement. Alors beaucoup de questions peuvent être passées. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre les deux là? Oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais nous savons pas combien de temps Joseph a cru en Jésus-Christ. La Bible ne le dit pas. Mais nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il s'est opposé aux efforts de ses conseils pour condamner Jésus-Christ. Il s'est opposé, comme Marc l'a dit. Oui, il était un homme riche, mais il n'était pas prêt à payer le prix de s'identifier à son Seigneur Jésus-Christ. Il a gardé sa foi secrète. Il avait peur de ce qui lui arriverait si les autres juifs les découvraient. Il avait peur. Ah, s'il découvre que je crois en cet homme-là, aïe, 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 aïe. C'est ça qui le tourmentait. C'est ça qui l'a poussé à garder sa foi secrète. Il avait beaucoup à perdre à s'identifier et à s'associer à Jésus-Christ. Il était riche, il était influent, il était populaire et il avait beaucoup à perdre. Et il s'est donc accroché, non pas à Jésus-Christ, mais il s'est accroché au monde. Parce qu'il regardait peut-être ses intérêts perso, ses intérêts mondains. Il regardait ce qu'il pouvait gagner et ce qu'il gagne dans le monde. Il s'est dit, si je publie ma foi comme ça, je dis que je suis avec cet homme, je risque de tout perdre. D'où il s'est accroché au monde au lieu de s'accrocher à Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui correspondent au même profil de Joseph d'Arimathée. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Leurs voisins, dans le quartier ou dans l'immeuble où ils habitent, ou dans le lotissement, ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Leurs camarades de classe, à l'université, à l'école, ils ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Leurs collègues de travail, au travail, personne ne sait que tu es chrétien. Et si vous regardez bien, jour après jour, si vous regardez ces gens soi-disant de chrétiens, vous trouverez peu d'indices qui indiquent qu'ils sont chrétiens. Si vous suivez leur vie, comment ils vivent, comment ils réfléchissent, comment ils raisonnent, entre guillemets, comment ils s'habillent, comment ils parlent, il y a peu d'indices qui vont te permettre de dire que celui-là ou celle-là, c'est un chrétien. Peu d'indices. Vous savez pourquoi il y a peu d'indices? Parce que leur vie n'est pas si différente du monde qui les entoure. Leur façon de vivre n'est pas différente avec le monde. Ils font les mêmes choses que les non-chrétiens autour d'eux. Et pire encore, ils cachent intentionnellement, comme Joseph d'Arimathée, ils cachent intentionnellement leur foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire d'eux. Oh, je ne dis rien parce que ils vont me dire, oh là là, toi tu es dépassé, ah, toi tu es de notre monde, quoi, de notre âge. Une fois, il y a un jeune qui m'avait dit ça. Ah ouais, je dis ça, bon, je ne vais pas parce que, bon, il faut que je sois comme les autres. Sinon, on va me marginaliser, on va me dire que je suis d'une autre époque. Oui, frères et sœurs, la peur des hommes est un piège à éviter à tout prix, car cela empêche les autres non seulement d'entendre l'évangile et de donner gloire à Dieu, mais ça empêche aussi les autres d'entendre la parole de Dieu et de se convertir et de venir à Christ. Parce que rien que par ton comportement de chrétien, par ta façon d'agir en tant que chrétien, tu peux gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée n'a gagné aucune âme dans ce conseil-là. Pourquoi? Parce que il n'a pas dit ouvertement qu'il croyait en Jésus-Christ. Il a caché sa foi. Et beaucoup d'entre nous aussi aujourd'hui, et c'est très dangereux, cachent leur foi pour que les autres ne sachent pas. Pour que les autres ne sachent pas que je suis enfant de Dieu, que je crois en Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, moi je travaille dans un milieu où donc 90% de mes collègues sont des musulmans. Mais je leur dis que je suis chrétien. Et une fois, lors du Ramadan, à midi, à la pause, eh bien moi j'ai pris mon petit repas et je commençais à manger. Hein. Et il y a un qui a osé me dire, t'as pas honte de manger, toi? Moi je dis, j'ai pas honte de manger. Ah oui. Et j'étais surpris, pourquoi? Parce que c'est un collègue avec qui, bon, je suis bien, je parle bien. Hein. Il n'est pas méchant, il n'est pas agressif. On s'entend très bien. Mais ces jours-là, il a osé me dire ça. T'as pas honte de manger pendant le Ramadan? T'as pas honte? Moi, je dis, j'ai pas honte de manger, je veux manger. Et je continue à manger. Et demain encore, je vais manger encore. Il s'est levé, il est parti. Ah oui, faut pas avoir peur de témoigner Christ là où tu es, dans ton entourage. Faut pas avoir peur. La peur des hommes est un piège à éviter à tout prix, parce qu'il empêche les autres d'entendre l'évangile, ça empêche les autres d'être touchés par l'amour de Jésus-Christ, par la grâce de notre Dieu, et de venir vers le Seigneur. Voici ce que Ésaïe 51 dit. Ésaïe chapitre 51, le verset 12b, donc la deuxième partie du verset 12 à 13. Je vais lire. Ésaïe dit ceci. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Qui es-tu, frère? Qui es-tu, ma sœur, pour avoir peur de l'homme? Et la Bible compare l'homme à l'herbe. Jacques dit, comme une vapeur qui apparaît et disparaît quelques secondes après, quelques minutes après. Et toi, tu dois avoir peur de cet homme-là. Qui es-tu? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, l'homme qui doit mourir, qui va mourir, et du fils de l'homme pareil à l'herbe? À tel point que cette peur doit te faire oublier. Oublier qui? L'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait. L'Éternel Dieu qui t'a fait. Je suis parent, mais quand un enfant t'oublie, je pense que ça fait... Enfin, imagine ton enfant t'oublie. En tant que papa, en tant que maman, je pense que ça va te faire tourner la tête. Tu vas dire, mais cet enfant, il y a un ça va pas dans sa tête. Alors la Bible dit, qui es-tu? Pourquoi tu dois avoir peur de l'homme mortel, frère, sœur? Dis ouvertement ta foi dans ton entourage. Ne reste pas un disciple secret. Lorsque nous sommes sauvés, nous ne pouvons plus rester silencieux et craintifs. À l'église, comme nous sommes là, nous chantons tous. Nous déclarons notre foi à notre Seigneur. On s'élève, on prie, on chante. Oui, on déclare. Mais une fois dans la rue, à la maison, au travail, à l'université. On reste silencieux. On reste silencieux. On a honte, honte de témoigner l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Marc chapitre 8, le verset 38, écoutez ce que la Bible dit. Marc chapitre 8, le verset 38, la Bible dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 16 anges. Ok, tu as honte de témoigner Jésus-Christ, de dire que tu es chrétien, il n'y a pas de souci. Mais sache, la Bible dit, le Fils de l'homme, notre Seigneur, quand il reviendra, il aura aussi honte de toi. Il aura aussi honte de toi. Que cela nous fasse réfléchir. Ne soyons pas comme Joseph d'Arimathée, qui a gardé sa foi secrète. Témoignons notre foi tout autour de nous. Tout autour de nous. Le deuxième point, c'est la démonstration, ou le troisième point, je crois, la démonstration de la foi, la démonstration publique de sa foi, ou la démonstration publique de la foi de Joseph d'Arimathée. Nous ne savons pas exactement comment Joseph est venu à la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu ne le dit pas. Mais nous pouvons être sûrs et certains qu'il a eu de nombreuses occasions de voir et d'entendre Jésus-Christ en personne, certainement. Mais ce que nous pouvons dire aussi, que de toutes les façons, quelque chose l'avait conduit à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous sommes sûrs et certains. Sinon, il n'allait pas voir cette foi, bien qu'il fût secrète. Et maintenant, nous arrivons au moment où Joseph d'Arimathée va faire une profession de foi. La profession de foi secrète, sa profession de foi secrète était sur le point de devenir publique. Un temps, il s'est caché, mais maintenant, il veut maintenant émerger et faire voir sa foi en Jésus-Christ. Rien ne va décourager sa détermination à manifester son amour à Jésus-Christ. Il n'a plus peur de parler au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons même dire, il va passer de la peur de l'homme à l'amour de Jésus-Christ. Il va passer de la peur des Juifs à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu mourir sur la croix notre Seigneur et ses priorités ont changé. Et ce qui est important, frères et sœurs, ce que ses disciples secrets, ce que Joseph d'Arimathée n'a pas pu faire quand Jésus-Christ était vivant, la mort de Jésus sur la croix de Jésus-Christ l'a fait pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez, vous faites la différence. Ce que Joseph d'Arimathée n'a pas pu faire quand Christ était vivant, mais la mort de Jésus-Christ sur la croix l'a fait pour lui. L'a fait pour lui. Et c'est ça la puissance de la croix. La croix de Jésus-Christ a tout changé. Avant la croix, il était un disciple secret. Après la croix, il est devenu un disciple public. Il confesse publiquement sa foi. Avant la croix, il avait une foi secrète, mais après la croix, il a une foi publique, connue de tous. Vous savez, la puissance de la croix, frères et sœurs, si vous contemplez la croix de Christ, la croix de Jésus-Christ, et que vous ne changez pas, frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette croix a puissance de changer la vie. Nous tous, nous étions, nous avons un passé. Mais une fois que nous sommes venus à la croix de Jésus-Christ, nos vies ont changé. Une fois que nous sommes venus à la croix de Jésus-Christ, frères et sœurs, nos vies ont changé. Paul était persécuteur. Il tuait les chrétiens, l'apôtre Paul. Mais une fois qu'il est venu à la croix de Jésus-Christ, sa vie a changé. Sa vie a changé. Paul est, Saoul est devenu, Saul est devenu Paul, l'apôtre Paul. Il y a un avant la croix et un après la croix. Et c'est pareil aussi pour Joseph d'Arimathée. Un avant la croix de Jésus-Christ, les choses qu'il n'a pas pu faire quand Jésus était vivant, mais après la croix l'a transformé, l'a fait. C'est pour cela, je pense que ces cantiques que nous chantons, je ne pense pas que ces cantiques existent à l'époque de Joseph d'Arimathée. Ces cantiques qui dit la puissance de la croix, c'est dans Chantons l'Éternel. Et la deuxième strophe dit ceci. Et je pense que ce sont les mots qui ont traversé l'esprit de Joseph d'Arimathée. La deuxième strophe dit ceci. « Oh, je vois l'aurore du sombre jour. Christ en chemin pour le calvaire. » Il a dit Christ en chemin pour le calvaire. Joseph d'Arimathée. Là, battu, giflé, puis cloué au bois. Joseph d'Arimathée a vu notre Seigneur Jésus-Christ battu, giflé, puis cloué au bois. Il a vu ça. Parce qu'il était membre du conseil Sanhédrin. Il a vu ça. Et la fin de cette strophe de dit par un procès coupable. Un procès coupable. Et Joseph d'Arimathée savait que le procès qu'on a fait contre Jésus-Christ, c'était un procès injuste. Ils ont fabriqué de preuves. Ils ont fabriqué des preuves. Parce que Joseph savait que Jésus a été condamné injustement. Nous l'avons vu un peu plus haut quand il a dit qu'il n'a pas Il n'était pas d'accord avec les autres membres du conseil Sanhédrin pour crucifier Jésus-Christ. Il n'avait pas approuvé leur décision. Pourquoi? Parce que il savait que Jésus a été... Donc, on veut le condamner injustement. Il savait que c'était une erreur judiciaire. Si c'était aujourd'hui, on peut appeler ça comme ça, une erreur judiciaire. Et il savait aussi comment ce conseil a manipulé Pilate pour crucifier Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée savait parce que c'est ce conseil qui a manipulé Pilate. Oui. Il savait tout ça. Il savait dans quel état d'esprit se trouvait ce conseil-là, parce que lui-même, il en faisait partie. Et alors, comme c'est quand il dit, là, battu, giflé, puis cloué au bois par un procès coupable. La puissance de la croix, et puis il se dit, Christ s'est fait péché pour nous. Prend sur lui la colère. Alors il dit, non, sa croix doit me donner le pardon. Parce que je suis resté pendant très longtemps secret. Eh bien, non, il faut que cette croix me donne le pardon pour que je sois libéré. Frères et sœurs, si vous êtes passé par la croix de Jésus-Christ et que vous n'êtes pas libéré, frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette croix est capable, il a cette puissance de te transformer, de te libérer, afin que tu puisses devenir un homme nouveau et dire que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Joseph d'Arimathée va prendre une décision. Il ne va plus cacher sa foi. Il ne va plus rester un disciple secret. Une fois qu'il est passé par la croix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous l'avons lu. Il va demander le corps de Jésus-Christ à Pilate. Il va voir Pilate. Il dit non. Il va voir Pilate. Moi, je me rappelle au travail quand quelque chose, on cachait, on avait peur de dire ça au chef, donc à notre supérieur. À un moment donné, il y a quelqu'un courageux qui se lève et dit non, cette fois-ci, trop, c'est trop. Allez, on y va. Eh bien, c'est cet esprit-là qui a traversé l'esprit de Joseph. Il dit non, trop, c'est trop. Maintenant, c'est maintenant. C'est pas demain, mais c'est maintenant. Il dit, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui maintenant. Pas demain. Je ne remets même pas cette décision à demain. Mais aujourd'hui, je vais aller voir Pilate. Ce n'était pas facile d'aller voir Pilate, frères et sœurs. Bien que lui-même était aussi un haut fonctionnaire, mais ce n'était pas facile. Tu ne te lèves pas le matin, tu es ministre, que je vais aller voir Macron. Hein. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Mais lui, il dit, bon, ok, je vais aller voir Pilate. Alors, il va demander le corps de Jésus. Et Pilate était étonné que Jésus soit déjà mort. Il fait venir le centurion qui lui confirme cela, que Jésus est mort. Alors Pilate remet le corps de Jésus-Christ à Joseph d'Arimathée. Mais il y a une petite parenthèse aussi. Pourquoi Pilate a fait venir le centurion? Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée lui a dit que Jésus-Christ est mort, je viens que tu me donnes son corps. Mais pourquoi il n'a pas cru? Enfin, bon, entre guillemets. Hein. Donc, certainement, s'il a fait venir le centurion pour que le centurion confirme, c'est que, la Bible ne le dit pas, mais c'est que peut-être il y avait des doutes. Il a dit, il faut que je sois rassuré que oui, Jésus-Christ est mort, pour que je puisse ordonner qu'on lui donne le corps. Pilate a fait venir le centurion, c'est par mesure de prudence, tout simplement. Pourquoi? Parce que les membres de ce conseil Sanhédrin l'avaient déjà manipulé. Il l'avait déjà manipulé et certainement il le savait. Souvenez-vous le choix de Barabbas par la foule à la place de Jésus-Christ. Peut-être c'est resté dans la tête de Pilate. Il a dit, non, cette fois-ci, je ne veux pas me faire avoir. Il dit, allez, le centurion vient. Va vérifier, est-ce que c'est vrai, vraiment, il est mort, cet homme? Le centurion dit, oui, il est mort. Alors, Pilate ordonna qu'on puisse donner le corps de Jésus-Christ à Joseph d'Arimathée. Mais, dans cette histoire entre Pilate et Joseph d'Arimathée, comparons l'attitude. Les deux attitudes, l'attitude de Joseph et l'attitude de Pilate. L'attitude de Joseph. Pour Joseph, il veut prendre soin du corps de son Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, cela est précieux et ce corps mérite d'être honoré et traité avec amour. Voilà ce qu'il avait dans sa tête, Joseph. Oui, c'est ce corps mérite d'être honoré. Ce corps mérite d'être traité avec amour. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Ici, peut-être en Europe, on fait moins, mais bon, quand j'étais en Afrique, ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps quand on est dans l'Afrique, j'étais enfant, je voyais comment on prenait soin des morts, des enfants, les parents prenaient soin du corps de l'enfant ou bien de quelqu'un. Le très cher qui est décédé, comment on prenait soin de ça? Ah oui, on prenait vraiment soin, on l'habillait donc, avec tous les soins possibles. On le traitait avec amour, c'est comme s'il était encore vivant. C'est comme s'il était encore vivant. Alors, Joseph d'Arimathée, pour lui, il voulait prendre soin du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le traiter avec amour, avec honneur. Et c'était ça sa pensée. Mais par contre, pour Pilate, ce n'était pas le cas. Hein. Pour Pilate, le corps de Jésus n'était qu'un corps à descendre de la croix. Hein. Pour Pilate, c'était ça. C'était qu'un corps à faire descendre de la croix. Pourquoi? Parce que le lendemain, c'était la Pâque. Le lendemain, c'était la Pâque. Et les Juifs voulaient que le corps de crucifié soit enlevé avant l'aube, soit descendu de la croix, tous les corps de crucifiés. Et c'est pour cela qu'il avait même ordonné, Pilate, à ses soldats de casser les jambes de crucifiés pour précipiter leur mort, qu'ils puissent mourir vite, vite, vite et les faire descendre de la croix. Mais quand ils sont arrivés, les soldats, quand ils sont arrivés, quand ils sont venus à Jésus-Christ, ils ont constaté que Jésus-Christ était déjà mort. Et la Bible dit, ils n'ont pas pu casser ses jambes, dit la parole de Dieu. Mais par contre, ils ont dû casser les jambes des autres crucifiés. Alors, frères et sœurs, quelque chose s'est passé à la croix dans le cœur de Joseph. Quand Christ est mort, quand Christ est sur la croix, Joseph n'a plus peur. Il est maintenant prêt à déclarer ouvertement sa foi en Jésus-Christ. Et il le fait en demandant le corps de Jésus à Pilate. Et autre chose encore, lui et Nicodème, on revoit encore l'autre disciple secret de ce fameux conseil abominable. Nicodème, lui et Nicodème vont prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et ils préparent le corps et placent le corps dans le tombeau, roulant la pierre pour sceller le tombeau. Et nous lisons cela dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 59 à 60. Matthieu 27, verset 59 à 60, nous lisons la parole de Dieu, verset 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Voilà ce qu'il a fait. Il prit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le plaça dans le tombeau. Et ce tombeau, c'était à lui, parce qu'il était riche. C'était sa propre tombe qu'il avait creusée dans l'Europe. Et il a mis le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. En honorant Jésus par cet acte de donner sa propre tombe pour l'enterrement de notre Seigneur Jésus-Christ, Joseph d'Arimathée, sans le savoir, accomplissait la prophétie de Ésaïe 53 et le verset 9. Cette prophétie d'Ésaïe 53, verset 9 qui dit « On a mis mon sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. » Parce que cette tombe, c'était pour les riches. Il fallait avoir des moyens pour acheter ce genre de sépulcre. Et c'est là où Joseph a mis Jésus-Christ. En s'identifiant à un homme qui avait été exécuté pour trahison, Joseph aurait pu être aussi impliqué comme traître et aurait été rapidement expulsé de ses conseils. Ah oui, parce que on allait le traiter de traître. Il pouvait avoir des problèmes, de sérieux problèmes avec Rome, avec les Romains à l'époque. Mais malgré les grands risques personnels qu'il courait, de tout perdre, vu son statut social, rien ne pouvait l'arrêter pour témoigner sa foi et son amour vis-à-vis de son Seigneur. Rien ne pouvait plus l'arrêter maintenant. Il a dit, rien ne peut m'arrêter de témoigner ma foi et mon amour pour mon Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou le paix? Rien. Et Joseph a compris cela. Il a dit, rien ne peut m'arrêter maintenant et je fonce. Je témoigne ma foi publiquement. C'est ce qu'il a fait. Il a payé un prix élevé pour avoir honoré le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, cela coûte encore quelque chose d'être un vrai disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Cela coûte encore très cher d'être un vrai disciple aujourd'hui. Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. Et l'amour qu'il a témoigné vis-à-vis de son Seigneur, l'évangile de Luc dit qu'il y avait des gens qui ont été témoins de son amour pour Jésus-Christ. Les gens ont vu, ils ont dit oui, vraiment, il aimait son Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 23, le verset 55 dit, les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus ont suivi Joseph et ont vu le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Les femmes ont vu ce que Joseph a fait. Les femmes ont vu l'amour que Joseph a témoigné à son Seigneur. Il y a eu des témoins. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, il peut y avoir des gens qui peuvent témoigner pour nous de notre amour envers notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent témoigner, dire que, ah, celui-là, oh non, 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 oh non, 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 celui-là, vraiment c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut dire cela de toi dans ta vie aujourd'hui, ce matin? Est-ce qu'on peut dire cela de moi? Les femmes ont dit, ont vu ce que Joseph a fait. Les femmes ont vu l'amour que Joseph a témoigné pour son Seigneur. Que ça soit aussi ainsi dans notre vie. Que les gens voient qu'on a de l'amour envers notre Seigneur. Que les gens voient, oui, vraiment, on est pour ce Seigneur. Et non pour quelqu'un d'autre. Et non que les gens voient et ils n'arrivent pas à te situer. Pour finir, frères et sœurs, le courage de Joseph d'Arimathée est un défi pour nous aujourd'hui. Son courage doit nous pousser à prendre position pour Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Nous devons prendre position pour notre Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des disciples secrets. Ça, c'est sûr et certain. Il y a encore aujourd'hui des disciples secrets. Mais sachons une chose, que soit le secret va détruire les disciples, qui est secret, ou soit c'est les disciples qui vont détruire le secret. Comme Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que le Seigneur nous aide aussi à avoir cette force, ce courage de les témoigner, de témoigner notre foi ouvertement, sans avoir peur des hommes. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole vivante, cette parole qui nous édifie. Permets que cela puisse demeurer dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, à témoigner de notre foi, à dire que nous t'aimons, à dire que nous sommes pour toi, à dire que nous croyons en toi, à dire que tu es notre Seigneur et notre Maître, Seigneur. Qu'on ne puisse plus avoir cette crainte, cette honte, car tu ne veux pas que nous puissions avoir honte de toi, sinon le dernier jour, Seigneur, toi aussi tu auras honte de nous. Mais que ta parole nous éclaire et nous donne la force de marcher d'une manière digne des enfants des lumières, afin que tout autour de nous, cette lumière puisse luire et qu'on puisse comprendre et savoir que nous sommes pour toi. C'est de cette manière, de cette façon que nous pourrons aussi gagner des âmes pour toi. Parce que nous sommes là pour toi, nous sommes tes disciples, nous sommes tes ambassadeurs ici-bas. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen.